Ce balado a été produit par la Revue hybride de l'éducation, une revue scientifique gérée par le département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'enregistrement peut être utilisé sans frais à des fins personnelles, scientifiques et éducatives. Les droits d'auteur appartiennent aux auteurs et à la Revue hybride de l'éducation. Pour rendre l'écoute plus conviviale, des éléments comme les figures, les tableaux, les contenus entre parenthèses, les notes de bas de page et les références bibliographiques ont été supprimées de l'article original. L'article original peut être consulté à partir du site web de la Revue hybride de l'éducation. Cet article s'intitule « Les transitions horizontales à l'éducation préscolaire. Regard d'enseignante sur le vécu d'enfants âgés de 5 ans au Québec et en France. » Il fait partie du volume 10, numéro 3, paru en 2026. Les auteurs sont Christelle Robert-Mazet de l'Université du Québec en Outaouais ainsi que plusieurs collègues d'universités différentes. Problématique. Les transitions qui jalonnent le parcours des enfants ont longtemps été analysées, principalement sous l'angle des transitions dites verticales, entendues comme les passages d'un contexte éducatif à un autre, par exemple, du service de garde éducatif à l'enfance, vers l'éducation préscolaire au Québec ou de la crèche vers l'école maternelle en France. Dans ce contexte, les transitions dites horizontales, définies comme le déplacement d'un lieu à un autre, le passage d'une activité en cours à une autre, ou encore un changement des personnes présentes, demeurent relativement sous-étudiées dans la littérature scientifique. Pourtant, ces transitions occupent une place centrale dans le quotidien des enfants, en raison de leur fréquence, de leur répétition et de leur régularité. En effet, les enfants passent entre 20 et 40% de leur temps à l'éducation préscolaire, soit jusqu'à 4 heures par jour, dans des activités de routine et de transition. Ces transitions façonnent leur relation avec leur environnement et exigent de nombreux ajustements au quotidien. Les enfants sont notamment amenés à côtoyer des pères et des adultes différents lorsqu'ils changent de lieu et ils doivent s'adapter à des organisations, à des pratiques, à des valeurs et à des approches pédagogiques variées. Les transitions horizontales peuvent être difficilement vécues par les acteurs impliqués, dont les enseignantes. Ces dernières, particulièrement celles en insertion professionnelle, doivent composer avec l'incertitude, l'imprévisibilité et, parfois, l'impatience de certains. Enfin, ce constat peut sembler paradoxal, puisque les transitions horizontales devraient théoriquement contribuer à la stabilité et à la prévisibilité du quotidien. De fait, elles découpent la journée des enfants en différents espaces-temps et constituent la trame temporelle de leur expérience scolaire quotidienne. Pour atténuer ces défis qu'engendrent les transitions horizontales, les enseignantes mettent en place des routines et des rituels permettant de structurer l'horaire quotidien. Ces dispositifs visent à organiser l'expérience des enfants, à leur offrir des repères stables et à soutenir leur sécurité affective, leurs relations interpersonnelles et leur engagement dans les apprentissages. Les routines et les rituels confèrent également une dimension symbolique aux transitions et contribuent à leur donner du sens, favorisant la création d'un environnement harmonieux et porteur de repères affectifs et cognitifs. Néanmoins, bien qu'elles occupent une place centrale dans les expériences quotidiennes des enfants, les transitions horizontales s'inscrivent dans des temporalités relativement brèves, ce qui tend à les rendre peu visibles, tant pour les enfants que pour le personnel scolaire. En outre, malgré leur importance reconnue dans la littérature professionnelle, les transitions horizontales demeurent peu investiguées dans les recherches en éducation, ce qui témoigne également de leur relative invisibilité sur le plan scientifique. À partir de ces constats, la présente étude vise à examiner les perceptions des enseignantes à l'égard des transitions horizontales dans deux contextes culturels distincts, soit le Québec et la France. Le choix de deux contextes culturels n'est pas neutre, puisque les transitions horizontales sont fortement influencées par le contexte culturel dans lequel elles se construisent et s'actualisent. Bien que ces deux systèmes éducatifs présentent certaines similitudes, ils se distinguent par leur trajectoire historique, leur culture, leurs programmes éducatifs ainsi que leurs politiques et dispositifs de formation professionnelle. Dans cette perspective, l'adoption d'une approche transculturelle apparaît pertinente, puisqu'elle permet, au-delà de la comparaison des perceptions, de mettre en lumière des enjeux spécifiques aux phénomènes étudiés. En effet, si les manifestations des processus psychologiques varient selon les contextes culturels, certains processus fondamentaux demeurent communs, laissant entrevoir des régularités dans l'expérience des transitions horizontales chez les enfants et les enseignantes, malgré la diversité des contextes. Dans cette perspective, la présente étude s'articule autour de la question de recherche suivante. Quelle perception les enseignantes du Québec et de la France ont-elles des transitions horizontales à l'éducation préscolaire et des routines et rituels qui les accompagnent? Cadre conceptuel. Dans le contexte préscolaire, les transitions renvoient à la fois à des moments marquants du parcours éducatif des enfants, tels que l'entrée à l'école maternelle, et aux multiples micro-changements qui rythment leur expérience quotidienne au sein de ces environnements. Peu importe le type de transition, la notion de passage entre différents environnements éducatifs ou au sein de ceux-ci est centrale, engageant les enfants dans un processus continu de changement. Ainsi, les transitions représentent des moments cruciaux de transformation et de croissance, des espaces-temps de l'entre-deux dans lesquels les enfants sont amenés à renégocier et à reconstruire leurs expériences d'apprentissage avec les pairs et les adultes qui les entourent. La notion de processus demeure également fondamentale, car les transitions se caractérisent par leur nature dynamique intrinsèque, de sorte qu'elles ne peuvent être appréhendées comme des événements ponctuels, mais plutôt comme des phénomènes évolutifs se déployant dans le temps. Pour leur part, Dockett et Perry proposent de considérer les transitions comme étant marquées simultanément par des continuités et des discontinuités qui font naître des occasions, des attentes, des aspirations et des droits. Pour ces chercheuses, les discontinuités, notamment d'ordre éducatif, sont susceptibles d'avoir des effets bénéfiques lorsqu'elles offrent aux enfants des défis et des occasions d'apprentissage, tout en soutenant le développement de leur adaptabilité. C'est à partir de cette perspective que nous proposons d'examiner les routines et les rituels susceptibles de soutenir l'adaptation des enfants à leur environnement scolaire. Les routines et les rituels qui accompagnent les transitions horizontales. Selon Banerjee et Horn, les comportements jugés difficiles que peuvent manifester les enfants lors des transitions horizontales peuvent être atténués, voire prévenus, lorsque les enseignantes planifient ces moments et mettent en œuvre des stratégies adaptées. Cette planification repose notamment sur des dispositifs pédagogiques, désignés comme des routines au Québec et comme des rituels dans la francophonie occidentale. Malenfant définit les routines comme étant des séquences récurrentes d'actions quotidiennes qui reviennent à des moments prévisibles dans la journée et qui prennent une diversité de formes à l'éducation préscolaire. Les routines permettent aux adultes d'organiser la journée et aux enfants de comprendre et d'en anticiper le déroulement, à condition qu'elles reposent sur une certaine stabilité, fassent l'objet d'une explicitation et soient signifiantes pour eux. Même si ces routines sont souvent banalisées ou encore négligées, il demeure qu'elles contribuent à structurer le temps dans la perception des enfants et à promouvoir l'autonomie et la sécurité affective. Elles permettent aussi aux enfants d'expérimenter différentes compétences sociales, comme la coopération ou le compromis, ou d'affiner certaines compétences motrices. Le concept de rituel, mobilisé en France pour désigner les activités réalisées en regroupement collectif au début de la journée, trouve ses origines dans l'anthropologie et la sociologie de l'éducation. Il renvoie à des moments quotidiens au cours desquels les enfants construisent leur identité d'élève en s'appropriant des gestes et un langage porteur de significations symboliques. À titre d'exemple, le fait de marcher en rang et en silence constitue un élément central des déplacements à l'école et s'inscrit dans les transitions horizontales quotidiennes. Une telle pratique peut également être observée en contexte québécois, lorsqu'une enseignante invite les enfants à marcher, comme des petites souris, en produisant le son de la lettre « i », elle intègre une dimension propre à l'éducation préscolaire, en valorisant le jeu, l'imagination et les apprentissages liés à l'éveil à l'écrit, notamment avec des ouvrages tels que « Raconte-moi l'alphabet », largement utilisés dans les classes québécoises. Selon plusieurs auteurs, ces rituels jouent un rôle structurant en instituant une frontière symbolique entre l'école et la maison, permettant aux enfants de mieux identifier les attentes associées aux différents contextes, tout en contribuant au développement d'un sentiment d'appartenance. Réalisés plus spécifiquement dans le contexte des activités matinales, les travaux de Bertrand ont interrogé les fonctions des rituels scolaires à la maternelle. Les résultats montrent que des différences apparaissent dans le discours professionnel des enseignants lorsqu'ils parlent des rituels. En effet, si certains ne peuvent s'imaginer commencer leur journée sans eux, d'autres avouent ne pas savoir à quoi ils servent. Ces rituels scolaires semblent jouer trois fonctions principales. 1. Une fonction sociale. 2. Une fonction d'apprentissage. Et 3. Une fonction langagière. La fonction sociale recouvre notamment la consécration et l'acceptation d'un ordre social, l'adoption des postures corporelles exigées par l'institution, la transmission des normes et des valeurs culturelles, la création d'un cadre sécurisant ainsi que le développement d'un sentiment d'appartenance. La fonction d'apprentissage vise à rendre les enfants actifs et engagés dans leurs apprentissages. Enfin, la fonction langagière contribue au développement du langage, à l'appropriation du registre formel de l'école par les enfants ainsi qu'à une distanciation des réactions émotionnelles au profit d'une argumentation logique. C'est à la lumière de ces différentes conceptualisations des notions de routine et de rituel que la présente étude s'intéresse au discours d'enseignantes à l'éducation préscolaire à propos des transitions horizontales. Elles visent plus précisément à analyser les perceptions qu'elles en ont ainsi que les fonctions qu'elles leur attribuent, en tenant compte des contextes culturels dans lesquels elles évoluent. Présentation des contextes de l'étude. Malgré une langue commune, le choix de mettre en contraste les contextes scolaires du Québec et de la France repose sur leurs différences d'ordre historique, conceptuel, pédagogique et institutionnel. Au Québec, c'est à partir des années 1960 que des classes ont été ouvertes au sein des écoles primaires pour les enfants de 5 ans, puis en 2019 pour les enfants de 4 ans. Le cycle de l'éducation préscolaire présente un double mandat. 1. Favoriser le développement global de tous les enfants et 2. Mettre en œuvre des interventions préventives. Le programme cycle de l'éducation préscolaire encourage les enseignantes à planifier les routines et les transitions en vue de les rendre stables, ce qui permet ainsi de soutenir le développement global des enfants de même que leur engagement dans leurs apprentissages. Le fait de connaître les routines de classe est d'ailleurs nommé pour illustrer la composante expérimenter son autonomie. Chacun à leur rythme, les enfants sont progressivement invités à s'approprier les routines mises en place dès le début de l'année scolaire, lesquelles font ensuite l'objet d'une modélisation et de rappels réguliers de la part de l'enseignante. Au fil des mois, ces routines évoluent en fonction des intérêts, des besoins et des compétences émergentes des enfants, en sorte qu'elles constituent à la fois des dispositifs d'organisation du quotidien scolaire et des leviers favorisant le développement de leur autonomie. En France, l'école maternelle est devenue une institution officielle pour les enfants de 3 à 6 ans dans les années 1880. Envisagée comme une étape précédant l'école élémentaire, elle se retrouve souvent dans un bâtiment spécifique, même quand elle fait partie d'une école primaire. Elle est centrée sur un modèle d'instruction qui priorise la maîtrise de la langue française pour favoriser la scolarité future des enfants et donner l'envie à ces derniers d'aller à l'école. Les routines et les transitions sont rarement évoquées dans les programmes d'enseignement et les prescriptions institutionnelles. Toutefois, les travaux qui s'y intéressent indiquent que les rituels relèvent généralement d'une démarche pédagogique qui vise la transmission de savoir et l'apprentissage des normes et des postures attendues des élèves. Par ailleurs, leur dimension collective et répétitive est essentielle. Les rituels ont comme but de former une communauté d'apprentissage où l'individualité de chaque enfant est subsumée dans son existence en tant que membre d'un groupe d'élèves. L'institution demande aux enfants d'adopter ce statut et ce rôle d'élève dès leur tout premier pas à l'école. Dans cette perspective, les rituels s'inscrivent davantage dans une logique d'entrée dans la forme scolaire et de socialisation aux normes et aux postures scolaires. Méthodologie. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une recherche longitudinale portant sur les perceptions de divers acteurs à l'égard du concept de réussite éducative à la maternelle, au Québec et en France. Le projet s'est déployé sur 2 années scolaires au sein de 8 établissements. Ces établissements ont été appariés en diades selon des critères de similarité contextuelle, notamment le milieu géographique et le niveau de défavorisation socio-économique, afin de favoriser la comparabilité entre les contextes. Les écoles participantes se caractérisent par des modes d'organisation scolaire contrastés entre le Québec et la France. Au Québec, les classes de maternelle 5 ans sont intégrées à des écoles primaires regroupant plusieurs niveaux scolaires, où les enfants évoluent dans un environnement marqué par la présence de plusieurs intervenants. En France, les classes de grande section sont généralement situées dans des écoles maternelles distinctes des écoles élémentaires. Ces établissements peuvent également proposer des classes multiniveaux, dans un contexte où la présence de spécialistes apparaît plus restreinte, voire absente dans certaines classes de GS. Les deux contextes se distinguent également par l'organisation du temps. Au Québec, la planification repose généralement sur des cycles horaires de 10 jours, modulés par la présence d'activités prises en charge par des spécialistes. En France, la semaine scolaire est généralement répartie sur 4 jours, avec une rupture hebdomadaire au milieu de la semaine et des changements de personnel dans les structures périscolaires, ce qui peut influencer la continuité des repères pour les enfants. Participantes. L'échantillon est composé de 12 enseignantes titulaires de 6 classes de maternelle 5 ans au Québec et de 5 classes de GS en France. Il est à noter qu'une classe française fonctionnait avec 2 enseignantes. Le tableau 1 présente leurs principales caractéristiques. Outils. Chaque enseignante a été rencontrée 3 fois pendant l'année scolaire, afin de prendre part à des entretiens. Le premier entretien était individuel et semi-dirigé. Il a été réalisé au mois d'avril et portait sur les pratiques pédagogiques mises en œuvre par les enseignantes. La grille d'entretien était divisée en 3 sections. 1. Relation avec le groupe. 2. Programme, pédagogie et planification. 3. Observation et intervention. Le deuxième entretien, réalisé sous forme collective dans chaque école au mois de mai, consistait au visionnement de 2 vidéos par les enseignantes. Ces vidéos, d'une durée de 20 minutes, présentaient le quotidien de leur propre classe ainsi que celui de la classe appariée dans l'autre pays. Les participantes étaient encouragées à partager leurs réflexions tout au long du visionnement. Par la suite, des questions leur étaient posées en vue de recueillir leurs impressions générales, puis de les amener à discuter des manifestations de réussite observées chez les enfants dans les deux contextes. Enfin, un dernier entretien collectif sous forme de rencontre en ligne, réunissant les enseignantes de chaque diade d'écoles appariées, a été réalisé au mois de juin. Lors de cette séance, les participantes ont été invitées à visionner un montage vidéo présentant l'ensemble des 8 écoles participantes. À la suite du visionnement, des questions portant sur les éléments jugés surprenants ainsi que sur les points communs observés entre les différents contextes leur ont été soumises. Les participantes ont également été encouragées à interroger leurs homologues de l'autre pays afin de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de leurs classes respectives. Lors des 3 entretiens, aucune question ne portait spécifiquement sur les transitions, les routines ou les rituels. Néanmoins, les propos des participantes ont fait émerger de nombreux exemples de transitions horizontales, donnant lieu à des échanges spontanés entre les enseignantes. À partir d'une analyse secondaire des données, la présente étude a ainsi permis d'identifier les passages relatifs aux transitions horizontales au sein des discours spontanés et de les extraire des verbatims. Considérations éthiques. Toutes les procédures en matière d'éthique de la recherche ont été respectées, notamment au regard du consentement libre et éclairé, du droit de rétraction et de l'anonymat. Au Québec, un certificat éthique a été obtenu de l'Université du Québec en Outaouais. Chaque personne apparaissant dans une vidéo a donné son autorisation avant que les montages ne soient diffusés aux participants. Analyse. Une analyse de contenu thématique des données a été réalisée selon la démarche proposée par Bardin. Dans un premier temps, une pré-analyse de l'ensemble. Des verbatims a été effectué à partir d'une lecture flottante visant à se familiariser avec le corpus et à faire émerger des pistes d'analyse initiales. Les extraits en lien avec les transitions horizontales ont alors été repérés. Dans un second temps, une exploration systématique du matériel a été menée au moyen d'un codage thématique, au cours duquel les unités de sens ont été regroupées en catégories associées aux différentes transitions horizontales, pour que soient ainsi examinées les perceptions des enseignantes à leur égard. Enfin, une phase de traitement et d'interprétation des résultats a permis de les mettre en perspective avec le cadre théorique proposé par Bertrand, lequel fait appel aux fonctions des rituels scolaires qui peuvent éclairer les significations attribuées par les enseignantes aux transitions horizontales. Résultat. L'analyse des verbatims a permis d'identifier un ensemble de transitions horizontales telles qu'elles sont perçues et décrites par les enseignantes. Les routines et les rituels structurant la journée des enfants comprennent notamment 1. L'arrivée et le départ, 2. Les séquences d'activités de l'avant-midi, 3. La collation, 4. La récréation, 5. Le repas, 6. La détente, 7. Les temps vécus au service de garde en milieu scolaire au Québec ou dans les services périscolaires en France. D'autres moments, tels que « émoticônes, n'en croyant pas ses yeux », les chansons et comptines et 9, les regroupements, apparaissent comme des éléments transversaux mobilisés pour soutenir et encadrer les transitions. Les perceptions des enseignantes à l'égard de ces moments sont présentées à partir de ces différentes catégories. La discussion des résultats s'y articule également, de manière à en faciliter la compréhension et à rendre compte de façon intégrée des perceptions des participantes. L'arrivée et le départ. Au Québec, la majorité des enfants arrivent et repartent via le SGMS ou l'autobus. Comme le souligne Ivy, la plupart sont au service de garde, sinon il y a l'autobus. En France, les enseignantes mentionnent que les enfants sont déposés et récupérés directement par leurs parents. Si ces derniers restent habituellement dans l'entrée de l'école, ils peuvent cependant accompagner leur enfant jusqu'à la classe dans certains cas. Tous les matins, ils peuvent me parler. Je suis disponible, s'il y a quelque chose, ils me le disent, ils libèrent la parole. Pour les autres enseignantes françaises, la communication serait facilitée par des moments de rencontre quotidiens, ce que met de l'avant Mia. Les parents, on les voit tous les soirs à la sortie. Au Québec comme en France, la routine liée à l'accueil constitue un moment clé de la journée. Elle se caractérise par une salutation individualisée et la mise en place d'activités calmes, que les enseignantes planifient afin de tenir compte de la diversité des rythmes et des états affectifs des enfants, tout en assurant un suivi individualisé. Le propos de Léa témoigne de l'importance de cette routine. Chacun arrive à son rythme. Il y en a qui sont plus vite, il y en a qui ont besoin de plus de temps. On s'assoit. Comme ça, moi, ça me permet aussi de faire un suivi. S'il y a des élèves qui ne sont pas de bonne humeur, ça me permet d'aller désamorcer de ce qui se passe le matin, ils sont plus disponibles après. La séquence d'activité de l'avant-midi. Dans les deux contextes, certaines activités sont ritualisées et leur séquence demeure stable au fil de l'année. Au Québec, Mel précise, nos journées sont toujours pareilles ou à peu près. Les enfants rentrent le matin, ils arrivent progressivement, ils s'assoient à leur table. Ils ont leur dessin, ensuite, on s'en va en causerie, au tapis, où on fait toute notre routine du calendrier, de la météo, le message du jour, nos chansons, notre danse. L'objectif pour Kim est que l'enfant se sente en sécurité, du début à la fin de la journée. Pour Aya, la routine du matin est sacrée, elle devient une occasion de développer de nombreuses habiletés en raison de son caractère répétitif. La répétition, on le sait, c'est une forme d'apprentissage. Plus tu répètes, plus tu risques de l'apprendre. C'est une autre stratégie, parmi tant d'autres. Selon cette enseignante, le message du jour permet aux enfants d'explorer des notions liées à l'écrit, telles que la reconnaissance des lettres, des mots familiers ou encore certaines correspondances entre l'oral et l'écrit. Elle indique qu'au départ, ils ne reconnaissent qu'une lettre, qu'à Noël, ils identifient des mots et qu'à la fin de l'année, ils lisent le message sans elle. Au début, ils vont juste reconnaître juste une lettre, puis rendus à Noël, ils sont capables de reconnaître des mots. À la fin de l'année, ils le lisent sans moi. Aya organise également une ronde, lors de laquelle chaque enfant salue le personnage vedette du mois, avant de le passer à son voisin. Cette routine lui permet d'identifier des enjeux langagiers. « Bonjour petit bonhomme de pain d'épices. » Il y a beaucoup de consonnes, plusieurs syllabes, donc. Je peux déceler différents problèmes de langage. La voix, l'ajuster et elle chuchote « parle comme ça, porte ta voix, on veut l'entendre, prendre la confiance. » Le corps est aussi mis en jeu. Pendant que les enfants restent en cercle, Aya valide s'ils sont capables de contrôler leur corps, de réaliser l'action motrice qu'elle propose, etc. Moi de la nutrition, on a Madame Fraise qu'on lançait, c'est une toute petite fraise. Au début du mois d'avril, j'avais plus de la moitié de la classe qui n'était pas capable de l'attraper. À la fin du mois d'avril, tout le monde l'attrapait. Cette routine est enfin l'occasion de répondre, selon elle, à un besoin affectif. Il y a des enfants qui ont besoin d'un câlin, il y en a qui viennent. Vers moi, je vais leur en faire un, d'autres qui préfèrent être dans leur bulle, donc ils peuvent juste se déposer, se libérer en serrant le toutou. En France, Ariel et Simone précisent que les rituels ne sont pas toujours mis en œuvre systématiquement, mais qu'ils ont leur utilité. Ariel parle notamment du bilan de la journée qui permet aux enfants de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Pour Ama, certains rituels sont, en revanche, incontournables, comme la prise des présences. Au moment du regroupement, deux élèves sont responsables du dénombrement des filles et des garçons. D'abord, ils distribuent à chaque enfant un Lego d'une couleur pour les filles et d'une autre pour les garçons. Et après, ils les ramassent. Et c'est là où ils construisent la tour d'appel. Réalisée en équipe, ce rituel permet aux enfants d'assumer une responsabilité, tout en développant leurs compétences en mathématiques. Puis, s'ils le peuvent, ils sont invités à écrire le nombre au tableau, en s'aidant de la bande numérique mise à leur disposition. Les regroupements. Pour Léa, l'attribution de places fixes lors des regroupements permet une sécurité émotionnelle à certains enfants. Ce groupe-là, aussitôt qu'il y a certains changements dans la routine, on le voit, il y a comme la fébrilité. Il faut absolument, pour qu'ils se sentent sécurisés, d'avoir un lieu précis et une certaine distance entre d'autres. La disposition du groupe est aussi une préoccupation que soulève Ivy. Nous, ils sont assis au tapis, puis c'est beaucoup de gestion là tu sais, ils sont tout le temps dans l'espace des autres, puis c'est pas facile. En France, pour faciliter la gestion des places lors des regroupements, Ama invite les enfants à s'asseoir sur leur étiquette placée sur le banc. Même quand on est au coin regroupement pour des activités guidés, de la phonologie ou du comptage, ils restent à leur place. Et après, cependant, pour l'histoire, ils ont le droit de se mettre où ils veulent, sauf si débordement, ils retournent à leur place. La collation. Au Québec, la collation du matin est une pratique systématique que les enseignantes évoquent à plusieurs reprises. Elles rapportent que les enfants mangent, en classe, ce que leurs parents ont placé dans leur sac, en plus d'avoir accès à un complément fourni par l'école. Dans l'école d'Ivy et Eva, un panier de fruits est offert en tout temps dans les classes. On peut le remplir. Il y a du yogourt, il y a du fromage. Pour composer la collation, Eva rapporte que les parents reçoivent des recommandations de l'école. La première rencontre en début d'année, on mentionne aux parents qu'on veut soit un fruit, un produit laitier, une barre tendre. Le matin, c'est une collation santé. Léa nomme. Un enjeu pour certains parents, pour différentes raisons. Il y a certaines familles, je sais que c'est pas toujours facile d'aller remplir leur armoire à nourriture, fait que ce que j'ai mis comme règle, le matin, pas de chocolat, pas de caramel, mais l'après-midi, je suis plus flexible. La collation peut également faire vivre différents enjeux aux enfants, en particulier ceux qui sont moins autonomes. Le commentaire de Léa en témoigne. Des fois, il y en a qui ont besoin de soutien par rapport à ça. Puis, il y en a que non, mais il faut quand même garder à la vue parce que des fois, il y en a qui se faufilent puis sont en train de manger de quoi qu'il faut pas nécessairement le matin. Malgré les défis, la collation est considérée par les enseignantes québécoises comme une routine importante, ce que rappelle Eva. Certains enfants arrivent, ils ont même pas mangé, donc on mange une collation vers 9 heures. Ça comble les besoins des enfants. Les enseignantes associent enfin ce moment à des occasions de socialisation. Ça permet un moment d'échange, il y en a qui vont se raconter leur petit bout de vie. Ils se parlent entre eux puis ils se partagent des choses. En France, les enseignantes sont surprises de la routine de la collation au Québec. Ah! La collation, c'est un quelque chose. On a l'impression que ça coupe un peu les apprentissages. Le contraste est probablement renforcé par le fait que toutes nomment que la collation est interdite dans la majorité des écoles françaises à la suite de recommandations nationales liées à la santé. Ça a été une demande de l'Éducation nationale d'arrêter cette collation pour une question d'obésité, parce que les enfants n'apportaient pas forcément des choses très équilibrées, ça pouvait être un croissant. Lorsqu'elle parle des collations, les enseignantes françaises mentionnent également leurs préoccupations au regard de l'équité. Ama pense que ça peut créer des différences, et elle rappelle que seules quelques écoles la maintiennent, surtout dans les quartiers plus défavorisés, où les enfants ont des difficultés pour manger à la maison. Parce que les parents n'ont pas forcément les moyens, mais à ce moment-là, c'est des collations très réglementées et c'est fourni par la mairie. Ama précise qu'elle autorise la collation dans des situations exceptionnelles, comme à la suite d'une activité physique intense, comme la piscine, même si elle sait qu'elle peut se faire taper sur les doigts. Les enseignantes québécoises, comme Ivy, s'interrogent sur la sensation de faim des enfants français jusqu'au repas. En revanche, pour Cam, le fait d'avoir une cantine avec un menu étudié pour que ce soit très équilibré justifie l'absence de collation. La récréation. Au Québec, les temps de jeu à l'extérieur pour les groupes du préscolaire ne sont pas nécessairement spécifiés dans la grille horaire scolaire des écoles, ce que Léa détaille. C'est nous qui décidons, on n'a pas un temps précis où on doit sortir. Toutefois, elle précise que certaines contraintes sont prises en compte, comme l'habillement. On peut commencer la journée à l'extérieur. Souvent, l'hiver, on demande aux parents que l'enfant soit déjà habillé. En France, Flo décrit à quoi ressemblent les temps de récréation pour les enfants. C'est 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi et après avoir mangé le midi, c'est une heure. Comme les récréations concernent toute l'école en même temps, les enfants de GS sont au contact de ceux de petite section, ce qui semble plaire à Léa. Le jumelage de petit et grand, ça vient avec une certaine responsabilisation, tu sais, une sensibilisation aux petits. Les enseignantes françaises soulignent que la récréation est un temps de liberté pour les enfants, où ils choisissent eux-mêmes leurs activités. Selon Cam, ce moment s'avère des plus importants, c'est le seul moment de liberté chez nous. Comme au Québec, les enseignantes perçoivent que plusieurs contraintes, notamment liées à la météo, peuvent influencer les activités des enfants, ce dont Flo témoigne. Quand il fait beau, on sort les vélos, on ouvre le bac à sable, mais évidemment, cette année, on a eu quand même une météo assez, on peut pas sortir les vélos parce que ça glisse. Dans les deux contextes, les enseignantes identifient que l'espace et le matériel disponible sont associés à la nature des jeux et des interactions. Comparant ce qu'elle a observé en France avec son expérience au Québec, Léa rapporte « Nous, on sort des ballons, on sort des cordes à danser, ils ont accès à du matériel, puis, vous, je voyais, ils se créent des jeux. » Mais elle identifie aussi l'influence de l'espace sur les jeux des enfants. Dans votre cour bétonnée, des jeux de groupe se créent là. Nous, la cour, elle est tellement grande que les enfants sont très loin les uns des autres, puis ça crée des petits groupes. Là, moi, je voyais des enfants qui jouaient tout le monde ensemble à un jeu. Je trouvais ça vraiment significatif. Le repas. Au Québec, les enfants mangent généralement dans leur classe un repas préparé par les parents ou pris au service de traiteur, comme le rappellent les enseignantes. Bien que cela soit possible, peu d'enfants dînent à la maison, ce qui suscite des perceptions diversifiées de la part des enseignantes. Ainsi, si Aya, Mel et Kim considèrent que cela n'a pas d'effet particulier sur les enfants, Eva pense le contraire. Faire la coupure, c'est difficile. D'aller à la maison et dire « Ah, il faut que je retourne à l'école », je pense que de rester à l'école, ça assure une continuité. Ce manque de continuité est accentué quand les règles entre l'école et la maison sont très différentes, comme se souvient Léa qui rapporte une expérience antérieure. Cet élève-là, ça lui nuisait parce que là, à la maison, il avait moins de cadre fait que. Il arrivait ici, oh, je retombe dans un cadre plus serré. Pis là ça, tu sais, ça occasionnait une réaction. Pour Ivy, le retour à la maison peut nuire à la concentration, notamment si les enfants ont accès aux écrans. J'en ai une qui dîne à la maison, elle écoute de la télévision, et ça a un impact sur son après-midi. En France, la majorité des enfants mangent à la cantine, qui est une véritable institution culturelle, comme le rappelle Simone. C'est tellement ancré culturellement. On y sert un repas identique, préparé et supervisé par des personnels municipaux. Observant les enfants à la cantine, Léa relève des éléments positifs. Elle remarque entre autres que « il y a de l'entraide, parce qu'ils se servent, ils s'entraident pour se servir ». Ces apprentissages sont également soulignés. Par mail, ça ressemble plus à un repas comme à la maison, chacun a sa vaisselle, on ramasse les restants, on essuie notre table, ça a quand même du beau. Puis ils avaient l'air de s'entraider, puis tout le monde savait quoi faire. De manière plus spécifique, Liz explique que la cantine facilite la gestion des parents au quotidien. On dépose nos enfants, on ne se préoccupe pas du menu, on fait confiance à la cantine. Le gaspillage alimentaire demeure cependant une forte préoccupation pour elle. Durant cette pause de 2 heures, certains enfants rentrent chez eux. Liz pense que le midi, le fait de pouvoir rentrer à la maison, ça leur offre l'opportunité de faire une pause et qu'ils sont contents de retrouver leur milieu familial. Mia ajoute, à avoir un temps hors collectivité, vraiment à avoir un vrai temps de repos, ça leur permet de couper. Je pense que rien que par plaisir en fait, ils aiment avoir l'occasion de rentrer à la maison. Toutefois, Ama rapporte que cela peut nuire à leur relation avec les pères. Dans leur jeu, ça peut impacter ce qu'ils créent avec les autres. La détente et le temps calme. Les enseignantes québécoises décrivent une période de détente structurée, où les enfants s'allongent au sol, en silence. Eva considère qu'il est encore nécessaire pour les enfants de cet âge de dormir. Les études ont prouvé qu'ils ont besoin d'au minimum 30 minutes. J'ai l'impression que ça fait du bien. Elle utilise un système de récompense pour encourager la gestion du corps. Quand ils font une belle détente, ils mettent des points. Puis après 5 points, 5 belles détentes, ils peuvent aller piger dans la boîte à surprise. Cette enseignante ajoute que si les enfants n'ont pas l'obligation de dormir, ils doivent néanmoins demeurer couchés, en silence. MIOI, j'exige qu'ils soient couchés. Parce que s'ils sont assis, ils ont tendance à se regarder puis déranger. Le fait que les enfants bénéficient d'un temps sans occupation est important pour Eva, qui souligne le droit à l'ennui. Ça les pratique à rien faire, à rêver éveillé. Tu sais de dire, on est toujours dans l'action, dans les écrans, que l'enfant s'ennuie pendant 30 minutes, j'en vois qui regardent les motifs au plafond ou au plancher. Toutefois, elle nomme que, au fil des mois, plusieurs enseignantes assouplissent cette détente vers un temps calme avec activités silencieuses, comme c'est le cas le plus souvent en France. En effet, les enfants de GS ne font plus la sieste, ce que met de l'avant Flo. Les parents sont assez demandeurs pour qu'il y ait plus de sieste là. Cependant, ils ont accès à un moment de jeu ou d'activité seul en silence. Ama décrit sa façon de faire. Pendant 30 minutes, je mets de la musique douce, ils peuvent faire un puzzle, faire un dessin ou bien se reposer s'ils veulent. Mais c'est vraiment sur une chaise parce que nous, on n'a pas de place dans les dortoirs. À son sens, il s'agit de leur moment préféré de la journée. C'est vraiment le moment où ils se concentrent sur eux. C'est-à-dire qu'ils doivent dessiner pour eux. Ils font un puzzle que pour eux. L'enseignante précise qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et même s'ils n'ont pas le droit de parler aux voisins. Elle raconte que les enfants en gardent le souvenir longtemps. Tu vois des avantages à ces moments de détente, ça leur apporte beaucoup. Là pour l'enseignement, ça permet des choses. Beaucoup plus et sereinement. Moins de bruit, tu peux plus. Service de garde en milieu scolaire ou service périscolaire. Pour Eva, passer de la classe au SGMS peut constituer un défi pour les enfants. Les enfants ont de la misère à cet âge-là à déterminer qu'est-ce qu'est l'école, qu'est-ce le service de garde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent, comme le jeu et tout ça. Toutefois, elle rapporte que ça peut avoir une influence positive. Les éducatrices du SGMS ont plus de temps pour être avec les enfants, ils ont moins d'enfants aussi. Le midi, ils sont beaucoup, mais je pense que le soir, ils arrivent quand même à faire des beaux projets. Les enjeux sont moins marqués quand l'éducatrice intervient aussi comme aide à la classe, selon Kim. Je trouve que ça facilite la collaboration. Tu sais, les enfants la connaissent, les transitions sont plus faciles aussi par rapport à ça. Puis, tu sais, on peut même se parler de certaines choses qu'on voudrait améliorer, changer ou de certaines observations pendant qu'on est ensemble puis qu'on a 2 minutes. Dans le même ordre d'idées, Ivy déclare que « bien s'entendre avec l'éducatrice, ça fait une différence avec les enfants ». La collaboration est ainsi considérée comme essentielle, même si c'est « entre deux portes », comme le précise Aya. On échange beaucoup, c'est important parce que si ça n'a pas bien été le service de garde le matin, on peut m'en glisser un mot. Moi, mon intervention, ça va être différent. Des fois, ils voient plus les parents que nous, donc ça peut être une autre bonne source d'information. Pour elles, cette proximité permet un suivi plus cohérent et une meilleure coordination des interventions. Si moi je travaille quelque chose en classe et je mets certaines interventions en place, on peut faire une continuité de ça le soir ou le matin. Elle soulève également l'importance de la collaboration avec le service de garde, on est encore deux à intervenir pour le bien-être de l'enfant, puis trouver des solutions. En France, Ama soulève des enjeux d'adaptation. Cela peut être perturbant pour les enfants de passer du scolaire au périscolaire avec des exigences, en tout cas des manières de faire qui sont différentes, dans la gestion des comportements. Pour Mia, la communication est parfois un enjeu. On fait passer les informations nécessaires, mais c'est vrai que, on aurait aimé travailler sur un projet commun, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dans les deux pays, les enseignantes rapportent que la fréquentation du SGMS et du périscolaire peut influencer la journée des enfants de façon variable, en générant notamment fatigue et saturation pour certains, surtout ceux qui arrivent tôt et restent jusqu'au soir. Flo évoque le cas d'un enfant. Quand il n'a pas été en garderie, il est plus calme et plus disponible que quand il a eu une heure de garderie parce que souvent, il arrive à 7h30, et là, il arrive en classe. Déjà, on sait qu'il va falloir cadrer parce qu'il a déjà une heure de collectivité. Lys ajoute quelques précisions à cet égard. La fatigue, sur une journée, ce n'est pas forcément gênant. Mais le fait que ce soit tous les jours est répétitif. Et puis, on est toujours dans le groupe. On a moins de place individuelle. Les enfants sont plus vite fatigués à rester dans le collectif toute la journée que s'ils peuvent rentrer, arriver à 8h20 et repartir à 4h30. Je pense que c'est plus reposant. Cette perception est partagée par la majorité des enseignantes québécoises qui rapportent observer plus de fatigue ou d'agitation chez les enfants qui vont au SGMS, ce que souligne par exemple Léa. Je pense que c'est sûr qu'à la fin de la semaine, cet élève-là devient saturé plus vite parce que le service de garde ouvre à 7h15. L'élève n'arrive pas nécessairement à 7h15, mais je pense qu'il arrive tôt, puis il peut quitter le soir à 5h30. Fait que ça fait une grosse durée à l'école avec d'autres copains, pas de bulle, à la fin de la semaine, ça a un impact sur sa fatigue, sur sa disponibilité parce qu'il est constamment sollicité. Il n'a pas nécessairement de moments plus calmes, fait que je pense que oui, ça a quand même un impact. Cependant, Sue a une perception plus positive de cette situation. Ils sont épanouis, dans l'ensemble. Moi je pense qu'ils sont tous épanouis. Non, j'ai pas ressenti que ça avait de l'impact. Néanmoins, elle considère que les activités proposées ne sont pas toujours très stimulantes. En hiver, tu les vois assis sur le banc et ils doivent faire le silence. Pour un jeu qui va faire, allez, 4-5 minutes. Tu vois ça, enfin, ça me fait mal au cœur pour eux. Des fois ils vont avoir un coloriage et genre ils sont super contents les gosses, ils vont nous emmener le coloriage, waouh c'est l'activité quoi. Je veux pas être une mauvaise langue, mais bon y a pas assez de choses faites pour eux le midi. Les chansons et les comptines. Si en France les enseignantes ne parlent pas spontanément des chansons et des comptines, ces dernières occupent une place importante dans la routine des classes de maternelle au Québec, comme le rappelle Léa, les chansons aussi, dans les transitions, ça permet à ceux qui étaient tellement centrés sur leur activité à un moment donné, whoop ils entendent, fait que ça permet d'aller chercher ceux qui étaient centrés sur leur chose. Elle précise qu'elle les utilise aussi pour faire des pauses actives, on chante puis en même temps on gigote, après ça, on devient plus disponible à l'activité qui demande une certaine concentration, attention aussi. Léa voit aussi des occasions d'apprentissage grâce aux chansons, on apprend plein de choses, tu sais, on travaille le vocabulaire. Cette vision est partagée par Aya, qui a remarqué plusieurs de ses apprentissages, dont les suivants, le respect de son propre corps et de celui de l'autre, le respect de son partenaire, le rythme, la coordination, l'équilibre, la mémoire des gestes, de la parole et des mots, du nouveau vocabulaire. Cette enseignante évoque également le « plaisir » là que ça peut provoquer, ce plaisir d'être en communion dans la joie. Discussion. Les résultats mettent en évidence que les transitions horizontales décrites par les enseignantes s'inscrivent dans différents moments structurant le quotidien scolaire. Loin de se limiter à des séquences organisationnelles, les routines et les rituels apparaissent comme des dispositifs aux fonctions multiples, définies. Dans les paragraphes suivants, qui contribuent à la fois à la sécurisation des enfants, à la structuration du collectif et au développement de compétences. Fonctions de sécurisation et d'orientation dans le temps et l'espace scolaire. L'organisation scolaire impose aux enfants différentes discontinuités tout au long de la journée. Si des chercheurs suggèrent que les enfants soient capables de distinguer les exigences associées aux différents environnements dans lesquels ils évoluent, il peut néanmoins être exigeant de s'y adapter. Ainsi, les routines, en offrant la continuité nécessaire pour soutenir leur adaptation au cadre scolaire, peuvent engendrer un sentiment de sécurité affective chez les enfants et soutenir leur engagement dans les apprentissages. Les propos des enseignantes permettent d'identifier un ensemble de pratiques visant à structurer la journée et à sécuriser les enfants en réduisant l'incertitude liée au changement, lesquelles se manifestent. Particulièrement dans les routines d'arrivée, la séquence du matin et les regroupements qui constituent des points d'ancrage soutenant l'engagement des enfants. Selon les enseignantes, l'accueil constitue un moment de transition essentiel, lequel devient un espace-temps respectant les besoins et les émotions des enfants et agissant comme un « tampon » qui leur permet d'assimiler leur environnement. Le moment consacré à l'accueil permet aux enfants de revêtir leur rôle d'élève et de réinstaurer la relation pédagogique avec l'enseignante. Ce dispositif est central, car, en mettant en place une routine dans laquelle chacun est accueilli avec attention, on humanise l'enfant qui entre dans la classe, on lui donne une place dans le groupe classe et il est reconnu par le maître et ses autres camarades. De manière similaire, les regroupements et les séquences d'activités du matin sont décrits comme des repères stables et répétitifs, assurant une forme de continuité dans le déroulement de la journée et contribuant à rassurer les enfants en leur permettant d'anticiper les activités à venir. Dans cette perspective, leur répétition participe à sécuriser les transitions et à réduire l'incertitude, comme en témoigne une enseignante qui les qualifie de « routine sacrée ». Souvent propre à l'univers scolaire, ces moments ritualisés favorisent également l'entrée progressive des enfants dans leur rôle d'élève. À l'inverse, certains moments de rupture peuvent fragiliser ce sentiment de sécurité et s'avérer déstabilisants pour les enfants. Fonction sociale de construction du collectif. L'expérience scolaire des enfants s'inscrit avant tout dans une dynamique collective, les amenant à s'initier progressivement au vivre ensemble, à intérioriser des règles sociales et à structurer leurs relations avec leurs pairs. Dans cette perspective, les routines et les rituels, notamment les regroupements, les collations, les repas et les récréations, de même que le temps passé au SGMS et au périscolaire, jouent un rôle structurant central dans l'organisation de cette expérience. Les regroupements occupent entre autres une place importante en instituant le groupe comme entité collective, favorisant l'expérience du faire groupe. En effet, sur le plan symbolique, lors des moments de rassemblement, tout se passe comme si le corps de la classe se regroupait tout entier, ne faisait plus qu'un. Ce sentiment est renforcé par le fait que, dans ces moments, l'attention des enfants est généralement orientée vers une même cible. Sur un plan plus opérationnel, ces rassemblements offrent de nombreuses occasions d'apprentissage sociaux, particulièrement autour de ce que Lusseau désigne comme la « lutte des places », par laquelle les enfants prennent conscience à la fois des potentialités et des contraintes du collectif, tout en apprenant à respecter les règles propres au groupe et à l'institution. Disposés côte à côte, sur un banc ou au sol, ils réalisent ainsi des apprentissages implicites liés aux normes sociales, tout en devant composer avec les tensions inhérentes à la proximité physique et au partage de l'espace. À cet égard, les épaules, les bras comme les jambes se pressent, se poussent les uns les autres. La collation, le repas et les récréations offrent aussi des espaces de socialisation dans lesquels les enfants développent des interactions spontanées, des pratiques de partage et des formes de coopération. Ces moments apparaissent comme des lieux privilégiés de construction des relations entre pairs, souvent en dehors de l'intervention directe de l'adulte. D'autres travaux convergent dans cette perspective. Lorsqu'elle est proposée, la collation constitue un contexte favorable à la construction de valeurs d'échange et de partage, ces moments informels soutenant les interactions spontanées entre pairs. Les repas représentent également un temps de socialisation essentiel, durant lequel les pairs jouent un rôle déterminant dès le plus jeune âge. Cet espace social contribue notamment au développement des affinités, à la structuration des relations au sein du groupe, à l'intégration des normes sociales ainsi qu'à l'émergence de conduites de partage et d'entraide. Dans le contexte québécois, les échanges entre enfants s'articulent, entre autres, autour du contenu des boîtes à lunch, suscitant commentaires et comparaisons, tandis qu'en France, le repas du midi participe à l'appropriation d'un construit culturel central, celui du repas partagé autour de la table. Enfin, bien qu'elles se déroulent dans des espaces distincts et relèvent de logiques organisationnelles différenciées, les récréations présentent des caractéristiques communes en offrant aux enfants des occasions de socialiser entre pairs selon des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Elles constituent ainsi un temps privilégié de mobilisation des compétences sociales, au cours duquel les enfants négocient, organisent et régulent leurs interactions. À cet égard, Delalande souligne que « la récréation apparaît comme un moment de liberté surveillée que les élèves investissent de leur jeu ». Ils y déploient leurs propres activités, bâties sur un savoir enfantin dont ils héritent et qu'ils réinventent continuellement. Le SGMS et les dispositifs périscolaires s'inscrivent également dans cette fonction socialisatrice en tant qu'espace de socialisation complémentaire, parfois perçu comme facilitant l'adaptation des enfants au contexte scolaire. Ces contextes peuvent toutefois introduire des variations dans les normes et les attentes sociales, susceptibles de générer des tensions entre les professionnels. À cet égard, Bouchat souligne l'importance de la communication interprofessionnelle, de l'instauration de règles communes ainsi que de la continuité éducative entre les différents espaces. Lorsque ces conditions sont réunies, la fréquentation du SGMS ou des structures périscolaires apparaît généralement bénéfique, en offrant aux enfants des activités diversifiées dans des contextes caractérisés par un ratio adulte-enfant plus faible ainsi que par des occasions accrues de socialisation et de créativité. Johansson relève d'ailleurs que ces espaces favorisent des apprentissages liés à l'amitié, au respect d'autrui et à la coopération. Fonction d'apprentissage en contexte. Cette fonction regroupe plus spécifiquement les dimensions d'apprentissage liées au domaine langagier et cognitif du développement global. En effet, l'école constitue un lieu privilégié de développement et d'apprentissage, et les enseignantes identifient certaines routines et certains rituels comme des occasions propices pour répondre à cette mission, telles que la séquence d'activités du matin, les chansons, les comptines ainsi que les périodes de détente ou de temps calme. Plus précisément, les routines matinales agissent comme des supports au développement des compétences langagières et cognitives, en particulier des habiletés mathématiques, en favorisant des apprentissages progressifs ancrés dans la répétition et la contextualisation. Par ailleurs, les chansons et les comptines contribuent également à cette fonction, en soutenant notamment l'enrichissement du vocabulaire, le développement de la conscience phonologique, du sens du rythme ainsi que la consolidation de diverses notions. Cette contribution peut s'expliquer par le fait que la musique constitue un outil singulier de traitement de l'information, dans la mesure où les mécanismes cérébraux mobilisés lors de l'écoute ou de la production musicale sont étroitement liés à ceux impliqués dans la perception, la mémoire et le langage. De même, les périodes de détente ou de temps calme introduisent une rupture dans le rythme soutenu des activités structurées, en offrant aux enfants une forme de retrait temporaire des sollicitations cognitives constantes propres à un environnement souvent caractérisé par la proximité, le mouvement et le bruit. Cette mise à distance favorise un retour progressif à la disponibilité cognitive, condition nécessaire à la reprise des apprentissages et au réengagement dans les activités de classe. Par ailleurs, les perceptions des enseignantes mettent en évidence une fonction complémentaire, liée à l'importance de confronter les enfants à des moments de relative vacuité, voire d'ennui. Pour ceux qui ne dorment pas, la période de détente peut en effet constituer une suspension marquée du rythme habituel des activités, les plaçant dans une situation inhabituelle d'inactivité. Or, cette expérience s'avère féconde, puisque, lorsqu'il s'ennuie suffisamment longtemps, l'enfant recourt à toute son imagination en s'appuyant sur ses désirs propres. Conclusion. Les transitions horizontales occupent une place centrale dans l'expérience des enfants à l'éducation préscolaire, en raison notamment de leur fréquence et de leur enchaînement au cours de la journée. Elle structure le quotidien en offrant aux enfants des occasions répétées de développer des habiletés d'adaptation au changement par la mobilisation de repères relationnels, spatiaux et temporels. Comme le souligne Garcia et Zogmal, se préparer aux transitions implique d'apprendre à s'ajuster au changement, à leur caractère imprévisible et aux transformations de rôle qu'elles impliquent. Par ailleurs, les apprentissages associés à ces moments contribuent à une meilleure compréhension et à une appropriation progressive du statut et du rôle d'élève, en rendant plus explicites certaines attentes et normes qui y sont liées. Ainsi, lors des routines et des transitions horizontales, les enfants développent des stratégies, observer, prendre en compte autrui, identifier un espace, choisir le bon moment, utiliser le matériel adéquat pour se coordonner collectivement et s'insérer dans les activités en cours. Alors que les transitions peuvent constituer des moments de défi pour les enfants, les routines contribuent à les structurer de manière à renforcer leur sentiment de sécurité, dans la mesure où elles offrent des repères stables et prévisibles, qui se répètent au quotidien. Ce sentiment de sécurité ne repose toutefois pas uniquement sur les dispositifs mis en place, mais également sur la qualité des relations établies avec les adultes qui accompagnent les enfants dans leur quotidien. À cet égard, la collaboration entre les différents intervenants apparaît essentielle afin d'harmoniser les pratiques, les attentes et les expériences vécues par les enfants. Bien que sa mise en œuvre soit complexe, cette interprofessionnalité constitue un levier essentiel pour favoriser une vision partagée et cohérente centrée sur l'enfant, et soutenir ainsi son développement global. En conclusion, cette étude contribue à une meilleure compréhension de l'organisation des transitions horizontales à l'éducation préscolaire, un objet encore peu documenté dans la littérature. L'analyse des données a notamment permis d'enrichir le cadre proposé par Bertrand, en concevant les transitions horizontales comme des médiations pédagogiques articulant plusieurs fonctions, des fonctions de sécurisation et d'orientation. Dans le temps et l'espace scolaire, des fonctions sociales liées à la construction du collectif ainsi que des fonctions d'apprentissage en contexte mobilisant, entre autres, les dimensions langagières et cognitives du développement des enfants. Toutefois, le fait que les entretiens réalisés dans le cadre du projet longitudinal n'abordaient pas explicitement les transitions horizontales constitue une limite importante, considérant que les fonctions qui y sont associées n'ont pas pu être explorées de manière systématique. Néanmoins, cette absence de focalisation explicite peut également être envisagée comme un atout, en ce qu'elle a favorisé l'émergence de discours plus spontanés de la part des participantes. Au regard des résultats obtenus, il apparaît pertinent d'approfondir ces dynamiques dans de futures recherches, notamment en ciblant de manière explicite les perceptions des enseignantes ainsi que celles du personnel de soutien, dont les pratiques et les points de vue demeurent encore peu documentés. Enfin, il serait également essentiel d'accorder une place accrue à la voix des enfants, afin de mieux saisir leur expérience des transitions horizontales et des routines, et de comprendre plus finement la manière dont ils s'approprient ces contextes scolaires.